Romain Descendre, Jean-Claude Zancarini, on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Alors, de vous accueillir en distanciel, mais quand même, la discussion peut avoir lieu autour de votre livre, L'œuvre-vie d'Antonio Gramsci, publié à La Découverte cette année, un épais ouvrage de 550 pages qui revient donc sur la trajectoire intellectuelle de Gramsci. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes tous les deux professeurs en études italiennes à l'ENS, à l'École normale supérieure de Lyon. Et ça fait de longues années que vous travaillez sur la vie et l'œuvre d'Antonio Gramsci à travers des publications. Récemment, aux éditions de l'ENS, La France d'Antonio Gramsci, 2021. Et puis à travers un séminaire dans lequel vous travaillez autour des carnets de prison de Gramsci. Alors, Gramsci en tant que tel, il est quand même besoin de le présenter, encore que, évidemment, grand marxiste italien, mort très jeune, après une dizaine d'années en prison, un Gramsci dont un certain nombre des notions sont encore utilisées aujourd'hui dans le débat public, l'hégémonie, les intellectuels organiques, la guerre de position, qui est connu justement pour son séjour en prison et les carnets qu'il y a écrits, et quelqu'un qui, on a l'impression, a pu renouveler le marxisme quasiment à lui seul, grâce à sa puissance intellectuelle dans ces années 20 et 30, qui sont quand même le moment de grands, grands débats autour de la révolution russe, autour de l'internationale communiste, etc. etc. Donc, on a un auteur qui est en même temps passé et présent. Je donne un exemple dans un livre récent de Hugo Paletta qui s'appelle La possibilité du fascisme, où cet auteur appliquait la notion gramscienne de crise d'hégémonie à la France actuelle, dans ce livre aussi publié à La Découverte en 2018. Alors j'aimerais, dans ces questions qu'on va avoir et vos réponses, tout bêtement que vous commenciez par m'expliquer le projet. C'est-à-dire, depuis 2012, vous avez ce séminaire de lecture des carnets de prison, 10 ans de voyage, et vous avez fait dans ce livre, pas une biographie, mais une biographie intellectuelle dont l'objectif était, Gramsci le dit lui-même quand il parle de cette idée de faire des biographies intellectuelles, de reconstituer un processus de développement intellectuel. Et donc, ma première question est toute simple. Face à un corpus qui est énorme, laissé par cet auteur, comment vous avez fait ?
On s'est débrouillé comme on pouvait. Non, effectivement, une des questions, c'est il n'y a pas d'œuvre achevée, quoi. Et pour la première partie de sa vie, avant qu'il soit en prison, il y a une masse énorme d'articles de journaux, d'abord dans les journaux socialistes, puis la fondation d'une revue qui a été joué un rôle important dans l'histoire de Turin, en tout cas dans l'histoire des luttes ouvrières à Turin, qui est l'Ordine Nuova, l'Ordre Nouveau. Et puis des textes politiques à partir du moment où il est un des fondateurs du Parti communiste d'Italie, à partir de la scission de 1921 à Livourne. Et puis, quand il est en prison, à partir du moment où il obtient le droit d'écrire, c'est pas tout de suite, hein, il est arrêté en 26, il peut commencer à écrire en 29. Voilà, 33 cahiers de fragments, de notes, avec certaines notes très développées, d'autres qui sont des notes de lecture, des remarques, etc. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aurait pas pu le faire, ce livre, sans l'apport d'une nouvelle lecture italienne qui amène actuellement à la troisième édition de Gramsci, et en particulier la troisième édition des Cahiers. Et il faut dire au moins le nom de celui qui a été l'initiateur de ce processus, qui est Gianni Franchoni, qui est donc un prof de philo de Pavie, qui a presque mon âge, pas, un peu moins, et qui, depuis 40 ans, fait ce travail pour essayer de comprendre comment il travaillait en prison et, du coup, quelle est la chronologie des textes. Et nous, ce qu'on a voulu essayer de rendre, en particulier dans la troisième partie où on aborde les cahiers, c'est le processus hein, ce que lui-même appelle, dans le texte que vous citiez tout à l'heure, le rythme de la pensée en développement. C'est-à-dire, voilà, comment il passe, comment il élabore, comment les éléments politiques extérieurs, et en particulier ce qui se passe dans le communisme international et à l'international et dans le parti russe, l'amène à, en fait, hein, et nous on le dit assez clairement, à être en désaccord avec cette ligne et à proposer en gros une ligne alternative pour le communisme.
Et je me posais une toute petite question par rapport au carnet, parce qu'effectivement, dans votre livre, il y a des passages de philologie très précis sur l'établissement de cette édition, et ça c'est très intéressant, parce qu'on ne peut pas séparer ce qui est dit de la matérialité du texte. Question toute bête pour le public, ça fait combien de pages l'ensemble de ces carnets? Est-ce qu'on a une idée du volume global?
Alors, c'est 33 cahiers d'écoliers, en fait. Hein, c'est des petits cahiers qu'il remplit pour certains, la plupart, entièrement, mais qui, pour d'autres, ne sont remplis qu'en partie, en fait. Donc, c'est des centaines et des centaines de notes et plusieurs milliers de pages. Voilà, rempli d'une écriture à la fois très très claire, mais minuscule, et qui sont conservées à la Fondation Gramsci à Rome, qu'on a pu voir récemment pour la première fois en France à l'Institut culturel italien à Paris. Ils ont été apportés. Bien gardé dans des caisses sécurisées et réfrigérées, parce que c'est conservé vraiment comme des manuscrits anciens précieux, hein, voilà. Et alors maintenant on peut travailler aussi directement sur les photos des manuscrits. On a des photos qui nous ont été aussi communiquées par la Fondation Gramsci, mais c'est pas ce travail, on va dire, d'ecdotique et de philologie stricto sensu sur les manuscrits. Nous, on n'a pas besoin de le faire parce qu'il est, il est fait et très bien fait. Il nous arrive sur certaines notes d'aller voir le manuscrit pour essayer de vérifier un certain nombre de choses, et notamment de choses qui ont trait à la datation. Le plus important, en fait, dans cette histoire, c'est que jusqu'à récemment, en fait, jusqu'au travail de Gianni Franchoni, il était pas impossible, mais extrêmement difficile de dater finement toutes ces notes. Pour une raison simple, qui est que Gramsci avait le droit, dans sa cellule, de travailler sur plusieurs cahiers en même temps. Alors, des cahiers, il faut dire d'abord pourquoi des cahiers? Pourquoi des cahiers d'écoliers? Lui avait plutôt l'habitude de travailler sur des feuilles volantes, et il avait demandé au départ des feuilles volantes. Des cahiers parce que ça permet à la censure de s'exercer de façon tout à fait stricte et sûre. Avant de lui être communiqué, les cahiers sont numérotés, chacune des pages est numérotée, ce qui permet d'être au geôlier, en fait, et au directeur de la prison surtout, d'être certain qu'aucun papier ne sorte. Hein. Ils lui sont donnés à sa demande, sortis d'un lieu qui s'appelle le magasin, dans lequel il y a un coffre avec l'ensemble de ses livres, de ses revues, qu'il reçoit régulièrement, et puis ses propres cahiers. Et il les remplit à chaque fois en écrivant systématiquement une note précédée d'un signe de paragraphe qui peut être très courte comme longue. Hein, au bout d'un certain temps, certaines des notes sont longues. Et c'est des notes qui ont des statuts différents, qui sont pour certaines simplement de la prise de notes de ces lectures. Il y a des passages entiers qui sont simplement des citations, des morceaux de livres ou d'articles écrits par d'autres qu'il recopie et qu'il garde pour mémoire ou qu'il commente Voilà, et puis d'autres qui sont de véritables réflexions et qui ressemblent à de petits essais. Le problème, ça a été de réussir à dater tout ça, parce que on savait dès le départ en fait que certains cahiers étaient ceux avec lesquels il avait commencé, mais il a une manière très très particulière de les utiliser, ces cahiers, c'est-à-dire que comme il n'a pas le droit d'avoir plus de 4 pièces sur son bureau, dans sa cellule, sur sa petite table, c'est-à-dire qu'il peut avoir par exemple 2 cahiers, une revue et un livre, il n'est pas en mesure de consacrer chaque cahier uniquement à un seul sujet. Parce que l'idée, c'est que très vite, quand son travail commence à être mis en place, il a tout un programme avec une liste de sujets. Cette liste de sujets, elle va être refaite à plusieurs périodes et elle va évoluer. Mais comme il ne peut pas avoir un cahier pour chaque sujet, il a tendance à diviser ses cahiers. Donc certains cahiers sont divisés en 2, d'autres en 3, d'autres en 4. Et alors certains sont simplement consacrés à la prise de notes, il appelle ça des notes miscellanées, hein, la miscellanea, des notes miscellanées. Et d'autres sont consacrés à dépouiller les revues qu'il reçoit au fur et à mesure, et d'autres enfin assez rapidement sont consacrés à des sujets précis, et notamment ce qu'il appelle ses notes de philosophie, qui vont être dans certaines parties de cahier. Tout ça fait un ensemble qui n'est jamais, quasiment jamais daté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication interne de la part de Gramsci sur la date de l'écriture ou de la prise de notes de tel ou tel paragraphe. Et donc le travail de Gianni Fanchoni, fondamental, dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, et qui est à l'origine de la deuxième édition critique, l'édition critique qui est actuellement en cours de publication en Italie et sur laquelle on s'appuie pour tout notre travail, eh bien, a été de dater finement chaque note. C'est seulement à partir de ce moment-là que un travail qui continue à être un peu un travail de fourmi, hein, pour reprendre ce que vous disiez, comment on a fait, on a fait quand même pendant plusieurs années un travail de fourmi qu'on n'a pas fait seul, on a été aidé pour ça par les travaux précédents, mais un travail de fourmi au sens où il faut à chaque fois que ce que l'on lit, on le resitue dans la date précise de son écriture, ce qui permet de l'articuler avec d'une part, l'évolution propre de sa pensée à lui et le rapport de sa pensée avec ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe au sein de l'Internationale communiste et du Parti communiste italien en exil et en clandestinité, et ce qui se passe évidemment dans le pays, en Italie, sous le régime fasciste. Voilà.
Alors, je pense que c'était important de revenir là-dessus parce que dans cette entreprise de 550 pages que vous avez fait tous les deux, il y a vraiment cette idée philologie et histoire. C'est-à-dire que la pensée est toujours incarnée dans une pratique, dans un moment historique. Et donc, maintenant qu'on a posé un peu la manière dont vous avez construit ce livre, on va regarder un certain nombre d'étapes de la vie de Gramsci. Ou à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je savais pas du tout, notamment qu'il était malade, etc., de naissance. Et on voit la trajectoire de quelqu'un qui naît dans une famille sarde très pauvre et qui va s'élever grâce à la culture et avec un amour d'une certaine culture classique. Et là, dès le début, on voit que dans cette trajectoire où ensuite Gramsci va militer avant la guerre, puis pendant la guerre, dans le Parti socialiste italien, tout de suite devenir quelqu'un d'important dans la ville de Turin, marier ce côté intellectuel et actif de militant, on voit qu'une des premières révolutions qui fait connaître au marxisme, c'est justement l'intégration de cette notion de culture. C'est-à-dire qu'on sait, dans les différents auteurs qui ont pavé la critique marxiste de la fin du 19e, début du 20e, alors il y en a plein, Rosa Luxembourg, les réformistes, Karl Kautsky, Lénine, etc., qui, Lénine lui aussi, écrivait des articles. Donc ça pose le même genre de problème. Ça a posé le même genre de problème à Dominique Collat pour faire sa biographie intellectuelle de Lénine. Bon. Et là, Gramsci arrive et face à une certaine critique du marxisme qui est son économisme, sa vision très centrée justement sur l'économie, Gramsci amène la culture. Et il le dit, la culture, c'est une discipline de son propre moi intérieur. Et donc, vous me voyez venir, c'est aussi une manière de prendre conscience de soi et donc de prendre conscience de sa conscience de classe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots de comment Gramsci, avec son cerveau et sa volonté, arrive à ramener le concept de culture dans le marxisme dans ces années-là? En cinq minutes.
En cinq minutes, ouais. Non, 30 secondes. Non, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est qu'il est sur une ligne de ce qui a été constitué par la culture de l'humanité, en gros. C'est pas à laisser de côté, c'est au contraire à faire en sorte que les classes subalternes, les groupes subalternes, donc le prolétariat, les paysans, etc., puissent s'en emparer, puissent le comprendre, etc. Et ça c'est très net dès son travail de journaliste. Et un des aspects qu'on a traité il y a pas très longtemps, c'est la question du théâtre. C'est pas traité dans le bouquin, mais c'est un truc qu'on a fait à la demande d'un ami qui va le publier dans Théâtre Public. On voit très bien que, d'abord, il va à tous les spectacles de Turin. Il est le chroniqueur théâtral de La Vanti.
Et musical.
Et il est également, et ça on l'a découvert là, récemment avec des nouvelles attributions, donc il va à tous les spectacles, théâtre, musique. Et pour la musique, il y a Romain Rolland, il y a l'amour pour Beethoven, l'ami des gens qui cherchent la liberté, etc. Et puis, donc une vision, l'idée c'est quand même que, en gros, du passé on ne fait pas table rase. Du passé, on fait l'histoire, mais pas la table rase. Et on prend tout ce qu'il y a de bon dans l'élaboration antérieure. Donc ça, c'est peut-être le premier point hein, qu'il faut mettre en évidence. Alors ensuite, l'idée, c'est que du coup, le rapport qu'on doit avoir avec les masses, c'est un rapport de pédagogie, un rapport d'éducation. Et c'est en ce sens-là qu'il y a... culture, ensuite il y aura aussi hégémonie culturelle et dans la définition large de l'hégémonie politique, il y a aussi évidemment l'aspect culturel parce que précisément tout rapport d'hégémonie a un rapport pédagogique et que donc il y a tout un travail d'élaboration à faire permanent et que lui-même fait avant même la création du Parti communiste d'Italie. Qui fait dans des conférences, qui fait avec le journal L'Ordine Nuovo, qui faisait dans ce petit journal qui était un truc de voilà, le cri du peuple, qui était le petit journal hebdomadaire du Parti Socialiste, et donc il fait un lieu de réflexion tout à fait étonnant. Et c'est un peu tout ça. Peut-être tu précises un ou deux points.
Je crois qu'il y a... Une chose aussi qui est assez propre à Gramsci, c'est son double rapport à une longue tradition de culture italienne, d'une part, et d'autre part, au néo-idéalisme italien. C'est-à-dire à la pensée... incarné fondamentalement par Benedetto Croce à ce moment-là, mais aussi par Giovanni Gentile, qui sont tous les deux des élèves de Labriola, Antonio Labriola, qui était lui-même un philosophe lié à la tradition idéaliste, mais devenu marxiste et un des plus importants marxistes de la fin du 19e siècle, qui était en dialogue avec Engels notamment, avec toute une série de grands intellectuels socialistes européens, Sorel, etc. Donc il y a ça, c'est-à-dire qu'il vient, il ne vient pas du marxisme, Gramsci. Ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Ce qui, pour lui, culture est synonyme d'émancipation. C'est-à-dire que il n'y a pas d'émancipation des groupes subalternes. Voilà, du prolétariat à l'époque, parce qu'à l'époque, il parle pas de groupe subalterne. Groupe subalterne, c'est le langage qui se met à élaborer plus tard et en prison. Mais il n'y a pas de d'émancipation sans un dépassement de toutes les formes de détermination qui sont proprement économiques, sociales. Économico-corporative, comme il disait, hein, à la suite d'autres auteurs, justement. Voilà, donc cette émancipation, c'est déjà l'idée que les subalternes, les dirigés, puissent être eux-mêmes en mesure d'être des dirigeants. C'est ça, être des intellectuels, et d'où toute la question des intellectuels qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'elle est fondamentale, non pas parce que il y aurait une classe d'intellectuels qui est indispensable pour pouvoir assurer l'émancipation des masses, mais parce que c'est les masses elles-mêmes qui doivent se faire intellectuelles. Et le côté absolument décisif de la culture dès le début, pour essayer de répondre à votre question, ça vient de là, et c'est sans doute quelque chose. Alors ces aspects-là, on s'y est pas beaucoup attaché forcément dans le livre, mais on peut faire des hypothèses aussi plus de type plus historico-psychologique, c'est-à-dire que lui-même qui venait alors non pas d'une famille paysanne, excessivement pauvre, mais plutôt d'une petite bourgeoisie provinciale du centre de la Sardaigne, mais déchue pour des raisons complexes liées au fait que son père a perdu son emploi de fonctionnaire et a été même incarcéré pendant pas mal d'années, hein, ce qui fait que la mère de Gramsci s'est retrouvée avec 7 enfants et sans revenus, et à devoir faire avancer cette famille. Et Gramsci était tout jeune à ce moment-là, et donc lui, ça l'a bloqué dans son apprentissage scolaire à un certain moment. Il a énormément lutté, et il a lutté intellectuellement pour s'en sortir. Donc il y a peut-être effectivement un rapport aussi. Pourquoi il apporte la culture? Peut-être parce qu'il y a déjà un des éléments, c'est celui-là. Et l'autre élément, c'est que cette dimension culturelle, elle est propre à un certain historicisme, qui est l'historicisme de tradition italienne, qui remonte notamment à Vico, et qu'on retrouve dans tout l'idéalisme italien du second 19e siècle, quoi, auquel il est attaché, et qui s'exprime aussi à travers toute une série de revues. Revues comme La Voce et comme Leonardo, des revues qui ont été très importantes pour la vie intellectuelle et politique et culturelle de l'Italie de l'avant-guerre et encore pendant la Première Guerre mondiale, auxquelles lui il a été attaché et qui lui ont beaucoup beaucoup servi. Récemment, on a retrouvé dans un grenier qui n'avait pas vraiment été exploré d'une des habitations de la famille Gramsci, des centaines et des centaines de numéros de revues lus par Gramsci, auxquels Gramsci était abonné quand il avait autour de 18 ans, quoi. Et en fait, c'est ça qui l'a formé. C'est d'abord et avant tout ça qui l'a formé, d'où sans doute la culture qui bien fondamental dans son marxisme particulier.
Alors, on voit dans cette première réponse qu'effectivement, on ne peut pas, c'est logique, on ne peut pas séparer le travail conceptuel que va opérer Gramsci de son parcours personnel. Et effectivement, comme beaucoup d'acteurs de l'époque, il est percuté par des événements d'ampleur cosmique, la Première Guerre mondiale, alors en Italie 1915, Caporetto 1917, la Révolution russe. Et puis, donc il va interpréter tout ça, mais il ne va pas seulement l'interpréter, il va le mettre en action. Et on a ce grand moment très important, parfois un peu, d'ailleurs, mis en mythologie par les mouvements militants actuels, qui est le Biennio Rosso, ces deux années rouges, où de la même manière que l'Allemagne entre en révolution, qu'on a la révolution hongroise de Béla Kun, l'Italie est dans une situation extrêmement tendue du point de vue politique, où il y a ce basculement à l'extrême gauche, et notamment par l'occupation des usines, c'est-à-dire des formes de militantisme inconnues jusque-là, où les ouvriers italiens, notamment de Fiat mais pas que, arrivent dans les usines, cassent le lockout patronal et occupent les usines, voire utilisent eux-mêmes les machines qu'ils savent faire fonctionner. Gramsci est dans ce processus, Gramsci participe, et c'est là où en fait il va en même voir ce qu'on appelle ce mouvement des délégués d'usine et l'analyser. Alors comment il agit et comment il théorise ce nouveau moyen de lutte de l'occupation des usines dans ces années 1919-1920? Comment il voit tout ça?
C'est pas seulement qu'il voit, c'est que, en gros, l'ordre des nouveaux va jouer un rôle important. Mais alors, c'est pas tout de suite l'occupation des usines, c'est vraiment la grande grève d'avril, hein, d'avril 20. Et juste avant le début de la mise en place, à partir d'une structure qui est en fait une structure négociée entre les patrons et les syndicats, les commissions internes. Donc c'est l'espèce de voilà d'endroit où on entend, on écoute les revendications des ouvriers qui sont portées par des représentants syndicaux des délégués, et puis on essaye de trouver des solutions. Et le point de départ de la nouveauté de l'Ordine Nuovo, c'est cette question-là. Est-ce qu'on peut traduire en italien le mot soviète, quoi? Est-ce qu'on peut trouver un équivalent, il dit, une ébauche timide de quelque chose qui ressemblerait aux soviets. Et il dit, ça peut partir de la commission interne. Et assez rapidement, avant même la grande grève d'avril, qui est en fait une grève pour savoir qui a le pouvoir dans l'usine, parce que le point de départ complètement... qui pourrait paraître dérisoire, c'est est-ce qu'on met leur salaire ou est-ce qu'on laisse leur légal. Et les ouvriers disent non, nous on veut leur salaire, et le patronat dit nous on veut leur légal. Mais la question évidemment, c'est vous la commission interne qui décidez ou c'est nous le patronat? Il n'y a qu'un chef dans l'usine, c'est le patronat, c'est bon quoi. Donc, grève. Et grève qui s'étend sur tout le Piémont. Alors. Ça s'étend sur tout le Piémont, mais pas vraiment au-delà. Il y a des soutiens à Gênes, il y a des soutiens les cheminots, il y a un peu de soutien à Milan, mais c'est... Turin va rester à peu près tout le temps isolé. Hein, de ce point de vue-là, on va revenir après sur l'occupation des usines. Et donc là, de la commission interne, on passe à un processus qui se fait d'abord à la brevetti Fiat, etc., dans quelques autres usines de Fiat, puisqu'il s'étend, en tout cas sur Turin, d'élection des délégués des conseils ouvriers, des comités ouvriers d'usine. Et là, avec une autre... petite rupture avec les syndicalistes, enfin la CGIL, hein, la Confédération Générale Italienne du Travail, del lavoro. Tout le monde vote, tous les ouvriers votent, même les non-syndiqués. Là, ça a été un débat là sur est-ce que... Il y a une idée derrière qui est que le syndicat renvoie à une forme de lutte où les ouvriers sont des salariés, alors que le Conseil ouvrier renvoie à l'idée que les ouvriers sont des producteurs. Et donc, il y a là le noyau de la réflexion qui va faire l'expérience de l'occupation des usines. À savoir, nous sommes les producteurs, si nous arrivons à faire l'alliance avec, et en particulier, ils pensent beaucoup aux techniciens et ingénieurs, hein, eh bien, pourquoi on aura les capitalistes, hein, voilà. Et donc, première grève, Turin, avril, voilà, ils obtiennent quelque chose, quelques bricoles, etc. Mais enfin, les débat entre patronat et syndicats, parce que les syndicats n'en continuent pas moins à exister et à avoir une force contractuelle non négligeable, fait qu'il y a ce processus en septembre 1920 qui amène les syndicats à dire si le patronat lock-out, nous, on entre dans l'usine et on occupe. Et c'est là que l'intervention de l'Ordine Nuovo est décisive. Parce que l'idée des syndicats, c'est on va être là et on va faire une espèce de grève perlée, en fait. C'est-à-dire qu'on va produire le minimum pour que le salaire minimal, celui qui n'est pas aux pièces, celui qui n'est pas à la production, mais c'est le salaire minimal mensuel, enfin hebdomadaire, soit obtenu. Et eux, ils disent, mais non, hein, non, il faut montrer qu'en effet, nous sommes capables de produire aussi bien sans la présence des capitalistes qu'avec leur présence. C'est même mieux, parce que voilà, nous, on sait exactement comment ça se passe dans les ateliers, etc. Donc voilà, ça, c'était cette expérience-là qui amène à poser la question, est-ce qu'on est à la veille de l'insurrection ? Est-ce qu'on est à la veille de l'insurrection ? Et là, la réponse des Turinois, en gros, hein, c'est vrai que ça paraît presque surréaliste comme histoire. Il y a une réunion à Milan, est-ce qu'on fait où il y a les syndicats et le Parti Socialiste, est-ce qu'on fait l'insurrection ou pas ? Et les trois délégués de Turin, dont un est Togliatti, de l'Ordine Nuovo, mais un autre est un représentant des syndicats et l'autre est appelé le technicien de Turin, ils disent tous la même chose. Ils disent, non, non, nous, à la Fiat, Centro, où on est, le mieux armé, on a en tout et pour tout 5000 cartouches de mitrailleuses. On tient un quart d'heure. Donc, on peut se défendre, on se défend. Si on est attaqué, on se défend, mais on ne peut pas sortir et attaquer. Et là, il y a vraiment un moment extrêmement important qui fait qu'en fait, il y aura un accord entre le gouvernement de Giolitti et les syndicats et les gardes rouges qui gardaient les usines. Il y avait quelques attaques, en particulier de groupes déjà pré-fascistes, enfin, pas les fascistes à ce moment-là complètement, mais des groupes nationalistes, etc., machin, rendent les armes. Hein. Il y a des textes très beaux de gens qui étaient dans les usines qui racontent que c'était... Voilà. Qu'ils avaient une conscience de défaite, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, cette expérience formidable dont on... il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. C'est une défaite pour le prolétariat turinois.
Ouais. Ouais, c'est bien dit dans le livre. Voilà, c'est bien dit dans le livre. On voit que Gramsci aussi, en fait, a une conscience aiguë de la fin de cette lutte. Et c'est assez intéressant de voir la clairvoyance qu'il développe. Alors, effectivement, là, vous venez de l'évoquer. Dans ce contexte-là, les auditrices et les auditeurs qui nous regardent, nous écoutent, le savent. Malheureusement, la défaite va continuer. Et avec Benito Mussolini, qui petit à petit, en sculptant le Parti National Fasciste, puis avec la marche sur Rome d'octobre 22, va obtenir le pouvoir que lui donne Victor Emmanuel III et installer progressivement le fascisme, alors avec l'assassinat de Matteotti, 24, les lois fascistissimes, etc. Et comme le temps est malheureusement compté, Gramsci a une place très importante dans ces années-là, en tant que membre du Parti communiste italien, comme vous l'avez dit. Il va réfléchir, comme tous les intellectuels communistes de cette époque-là, hein, il regarde vers Moscou, il analyse les grands débats intellectuels et politiques et militants de cette époque-là. Et puis, ce moment important, il est emprisonné. C'est le moment décisif où en fait sa vie bascule, cette arrestation du 8 novembre 1926. Et bon, on pourrait parler des heures de toute son analyse. J'ai bien aimé ce que vous dites sur le fait qu'il a des textes très sectaires, mais qu'on voit en dessous de la ligne du parti déjà quelque chose qui naît derrière cette obligation sectaire. Bon, une fois en prison, il y a ce moment fondamental de 1928-29 dans tous les partis communistes européens qui est le changement de ligne de Staline qui a pris le pouvoir et qui va imposer une ligne sectaire qu'on appelle classe contre classe, c'est-à-dire plus de front uni et de négociations avec les sociaux-démocrates, c'est les frères ennemis, c'est les socio-fascistes, etc. Et Gramsci, qui est en prison, alors vous l'avez dit, il écrit pas tout de suite, c'est un point de départ pour lui. Et c'est très bien fait dans le livre. On voit que sa manière de ne pas accepter la ligne sectaire de Staline, parce que je l'ai pas dit, mais évidemment, il est en prison, mais il écrit énormément à sa compagne, il est au courant de ce qui se passe intellectuellement dans toute l'Europe de l'époque. Et il dit, OK, la ligne sectaire, c'est pas mon truc. Et c'est à partir de là qu'il crée, en fait, beaucoup et de très nombreux concepts qui, encore aujourd'hui, lui sont attribués et sont vivants parmi nous. Parce que, d'une certaine manière, il ne veut pas accepter ça et il sort de l'orthodoxie. Alors, ce qui est très drôle, vous le montrez, c'est que sortir de l'orthodoxie, c'est revenir à Marx. C'est revenir aux textes fondamentaux. Donc, il prend le temps de relire tout ça. Et bon, là, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, tout simplement parce qu'il faut lire le livre et que les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas tous et toutes des spécialistes de ce qu'est la superstructure et la structure dans le matérialisme historique. Mais vous le montrez, il y a dans cette révision, ce retour et cette révision au marxisme initial, il y a l'invention, il y a l'innovation, et notamment, par exemple, substituer au matérialisme historique cette idée de philosophie de la praxis. Et là, on voit le lien consubstantiel entre théorie et pratique chez Gramsci. Alors, est-ce que, de la même manière, en 5 minutes, vous pouvez nous expliquer un peu comment Gramsci va sculpter cette idée de philosophie de la praxis comme renouveau de la pensée marxiste ? C'est facile.
Alors, c'est ouais, facile. Là encore, c'est un retour à une tradition spécifiquement italienne. Philosophie de la praxis, c'est une expression de Labriola, de Antonio Labriola, pour déjà avec Labriola donner au marxisme et au matérialisme historique une définition sur la base de l'un des textes fondamentaux de Marx, que sont les thèses sur Feuerbach, où l'opposition entre matérialisme et idéalisme, en gros, qui est absolument structurelle dans toute la philosophie allemande du 19e siècle, est en quelque sorte dépassée au profit de cette idée de pratique, et ces thèses qui se terminent par, jusqu'à présent, les philosophes ont interprété le monde, ce qu'il faut faire, c'est le transformer. Gramsci, effectivement, repart de là. Donc, en reprenant cette expression de philosophie de la praxis, qu'on retrouve aussi chez Gentile, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, quand il repart de là, il accentue encore la couleur proprement italienne qui peut être donnée à cette idée-là, non pas sous une forme de revendication nationale, mais en faisant appel à Machiavel. Il y a un grand penseur de la praxis dans la tradition italienne.
Vous n'allez pas le dire, Machiavel. Sur lequel vous avez longuement travaillé tous les deux, donc je revois vos travaux sur Machiavel. Bon, hop, ça c'est fait.
Tout à fait. Et il y a un lien consubstantiel entre Machiavel et Gramsci à plein de niveaux. Et notamment, c'est à partir de Machiavel que, et en réfléchissant toujours sur Machiavel, que Gramsci développe quelque chose qui va être une science politique propre à la philosophie de la praxis. Hein. Il y a notamment un cahier complet, un de ces cahiers spéciaux consacrés à une thématique particulière, qui est le cahier 13, et qui est vraiment le cahier le plus politique de tous les cahiers de prison, qui s'appelle le cahier Machiavel. Donc cette idée repenser en fait l'apport de Marx à partir de la question de la pratique, la question de l'action, la question de la volonté et l'articulation extrêmement étroite qu'il faut faire entre politique et philosophie devient fondamentale aussi pour des raisons proprement politiques, celles-là même que vous avez évoquées, qui sont celles du tournant stalinien, en fait. Parce que dans l'idée de la stratégie classe contre classe, dans l'accusation frontale contre les soi-disant social-fascistes, etc., etc., il y a aussi l'idée que, de toute façon, la révolution et la crise finale du capitalisme va arriver d'un moment à l'autre, et que le sens de l'histoire est avec nous, que les lois les lois du matérialisme historique, qui sont les vraies lois, la vraie science de l'histoire, sont vrais et vont s'avérer d'ici peu de temps. Le fascisme, d'ailleurs, en est, d'une certaine manière, l'annonce et la preuve. Et voilà, il n'y a qu'à attendre. Et Gramsci dit non, c'est l'inverse. Il y a, au contraire, tout un travail sur l'action, la politique, la construction d'une volonté collective qui doit être faite maintenant, sans laquelle il n'y aura jamais de révolution. Et la révolution, si elle arrive, elle arrivera peut-être d'ici très longtemps. Donc c'est cette articulation entre ces deux moments-là qui fait que ce sont des concepts fondamentaux nouveaux du marxisme que Gramsci crée, mais il les crée pas parce qu'il aurait simplement tout le temps pour le faire en prison, de façon un petit peu détachée, comme un philosophe dans sa tour d'ivoire particulièrement désagréable et dure à vivre, hein, mais parce qu'il est profondément atteint par tout ce qui se passe à ce moment-là. Et il réagit à ça.
Une petite bricole en plus, c'est que par rapport à la question du 6e congrès international. Les Italiens résistent. Le parti italien résiste un an avec une argumentation assez simple. Ils disent, mais si on va dire ça aux ouvriers, que les social-fascistes, etc., ils vont nous dire un nom, Matteotti. Matteotti, député socialiste réformiste assassiné par les fascistes. Donc on ne peut pas. Au bout d'un temps, un an, ils tiennent un an avant de dire, il faut faire le necessità di una svolta, il y a la nécessité de faire ce grand tournant, etc. Et alors, là, à ce moment-là, Gramsci, non seulement il pense la philosophie, c'est plus matérialisme, fut-il même en insistant sur le historique, mais c'est la philosophie de la praxis. Il se fait Marx. On note qu'il prend tout le Marx dont Althusser va dire que ça, c'est pré-scientifique. Hein, il prend la Sainte Famille, il prend les thèses sur Feuerbach, etc. Et puis, il dit, mais c'est fini, la force expansive de la Révolution, elle a échoué en Allemagne, elle a échoué chez nous, elle a échoué en Hongrie. On n'est plus dans un moment où on peut parler de guerre de mouvement, il reprend cette métaphore guerrière, on est dans le moment où il faut penser le combat en termes de guerre de position. Et donc, la guerre de position, en politique, hein, c'est l'hégémonie. Il faut lutter pour l'hégémonie.
C'est à ça qu'on va venir, vous me faites une très bonne transition. Alors c'est vrai que j'aime bien la manière dont vous, étant pas du tout spécialiste, dont vous ramenez ça au contexte italien, parce qu'effectivement, ces cultures nationales et ces traditions militantes, elles sont importantes. Bien évidemment, la décision de Staline, sociodémocrate contre communiste, en Allemagne, elle va passer sans problème, parce que derrière, il y a la répression de la révolution allemande en 1918, etc. Donc, la stalinisation du parti communiste allemand, ça passe sans problème. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Alors, sur cette hégémonie, effectivement, Gramsci, on vient de le voir, c'est un penseur de la domination, un penseur du pouvoir dans le système capitaliste. Donc il a toute une... Un attirail de concepts, la direction, la domination, il va séparer ces deux idées. Puis, le concept qu'on utilise le plus, ce concept d'hégémonie, y compris pour le tordre complètement aujourd'hui, dans cette idée récupérée par une certaine droite française de gagner la bataille des idées, comme si conquérir l'hégémonie culturelle était un préalable à conquérir l'hégémonie politique. Alors, dans le livre, vous le définissez, et c'est aussi un des intérêts de lire le livre, c'est que vous revenez tellement au texte qu'on a accès à beaucoup, beaucoup de textes de Gramsci. Gramsci dit « L'hégémonie, c'est une structure idéologique de la classe dominante. » Alors, la postérité de ce concept aujourd'hui réinvite quand même à revenir à la source. Comment il le définit, quel est le détail de ce concept-là, d'hégémonie ?
Romain, il a hégémonie en 120 secondes.
Non. Oui, c'est ça, comme d'habitude. En deux minutes.
Là, c'est 2 minutes.
Non, on est à 5 minutes.
Alors, la structure idéologique de la classe dominante, c'est une des définitions possibles de l'hégémonie qui fait partie de ces définitions intéressantes, précisément parce que c'est pas dominant ni classe dominante qui est le plus intéressant dans cette définition-là, c'est structure. C'est-à-dire que Gramsci prend un malin plaisir à redéfinir le terme de structure dans un sens qui n'est pas économique ou économiciste. Il dit, la structure, si on réfléchit vraiment en termes de structure, bah, il faut prendre en compte... la politique et l'idéologie et la culture et l'ensemble de ce qui constitue le monde social comme faisant partie de la structure d'une certaine manière. Donc, il redéfinit le rapport entre structure, superstructure, qui est une dichotomie qui reste bien présente chez lui, mais qui fait travailler et à l'égard de laquelle il a une attitude contraire d'une attitude de dogmatique. Hein. D'ailleurs, à propos de cela, il lui arrive de dire que tout ça, c'est des métaphores, en fait. C'est des métaphores qui donnent une forme d'intelligibilité du réel, qui sont absolument décisives, qui sont importantes, mais qui ne disent pas justement la structure du réel. Alors, pour ce qui est de l'hégémonie elle-même, c'est une notion qui est complexe, évolutive et qui est à entendre sur différents niveaux, qu'il hérite notamment des Russes et de Lénine, mais à laquelle il donne une beaucoup plus d'importance. Au départ, c'est l'idée de l'alliance. Donc là, avant la période carcérale, avant la réflexion des cahiers, et précisément dans ces périodes de révolutionnaires et militantes, voilà, c'est l'idée de la nécessaire alliance des paysans et des ouvriers. Ça devient avec Gramsci. L'idée d'une alliance nécessaire des différents groupes sociaux avec les intellectuels aussi, mais sans doute aussi avec une partie de la petite bourgeoisie et donc aussi avec les forces politiques qui les représentent. Donc tout ça est présent. L'idée qu'il faut faire une alliance large, que ce n'est pas simplement sur des positions économico-syndicales de classe du prolétariat ouvrier qu'on va réussir à aller plus loin. Donc ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément qui naît à partir de sa réflexion en prison et sans doute même avant le moment où il commence à écrire, est une réflexion au long cours sur comment s'est imposée l'hégémonie bourgeoise. Comment la bourgeoisie a pris le pouvoir, et d'ailleurs même comment expliquer la Révolution française à partir de toute une série d'éléments qui sont des éléments qui n'ont pas trait à au pouvoir d'État, au pouvoir politique, au pouvoir de coercition, etc. Mais au fait que il y a eu des conditions de possibilité de la Révolution. Et ça, ce travail-là, il le fait notamment à partir d'une lecture qui est fondamentale pour lui, qui est quelqu'un que sans doute vous connaissez bien, c'est un franco-allemand, un allemand français, d'ailleurs il était plutôt de hollandais et russe de par ses parents, grandi en Allemagne, et puis devenu français d'adoption et français naturalisé, qui était Grütheusen, dont il lit juste après sa parution, en 1927, donc lui, il est en prison, il lit ça, les origines de l'esprit bourgeois en France. Donc cet essai, ce travail dans lequel cet historien et philosophe à la fois, qui était Grütheusen, fait un petit peu l'histoire de la naissance de la mentalité bourgeoise, qui permet de comprendre, pour le dire vite, bien des aspects de l'idéologie de la Révolution française, mais y compris au niveau des masses, au niveau du peuple et au niveau, en tout cas, de cette partie des classes moyennes hein, et du peuple dès le XVIIIe siècle. Voilà. Et ce livre le frappe beaucoup, et en lien avec ce livre, il en rencontre dans ses lettres, c'est là que naît ce projet de faire, en gros, l'histoire de l'esprit. L'esprit, le mot, il l'emploie, hein, l'esprit ou la morale ou l'idéologie bourgeoise moderne, un petit peu comparée entre France et Italie, et donc qui l'amène à faire cette histoire des intellectuels italiens. Et à partir de là, toute sa réflexion sur l'hégémonie dans les cahiers de prison est beaucoup plus directement une réflexion sur comment fonctionne ou ne fonctionne pas ou ne fonctionne qu'à moitié l'hégémonie bourgeoise moderne, comment elle a réussi à s'imposer et à se développer en France et en Europe d'une part et en Italie d'autre part, et c'est à partir de là que toute la question de hégémonie, idéologie, direction qui est d'ordre moral et intellectuel et culturel avant même d'être domination politique et prise du pouvoir effectif, se développe en fait. Hein. Donc ça va beaucoup plus loin effectivement que la simple idée d'une bataille des idées ou d'une occupation du terrain intellectuel. C'est comment un nouveau, ce qu'il appelle aussi un nouveau sens commun, peut se développer et fédérer. Derrière l'hégémonie, il y a en fait l'idée de savoir qu'est-ce qui peut faire ciment dans une société et qu'est-ce qui peut faire un nouveau ciment pour une nouvelle société, évidemment.
Ce qui fait que tu dépasses l'opposition intellectuelle prolétariat, intellectuelle paysan, que tu dépasses travail manuel, travail intellectuel, et que ça passe de là, tu dépasses la contradiction dirigeant-dirigé. En gros, c'est ça l'hypothèse du travail, qui est un travail pédagogique, comme on l'a déjà dit, un travail pédagogique permanent. Donc, il y a des intellectuels qui vont donner cohésion et conscience à la classe à laquelle ils s'adressent, hein, vont permettre ce passage de la place de dirigeant à celle de dirigé, réciproquement, plutôt dans... Mais il y a vraiment l'idée d'une dialectique entre les deux, et qu'il faut qu'il y ait une dialectique entre ce que le peuple sent, mais ne sait pas, forcément, et les intellectuels qui savent, parfois, mais qui ne sentent pas. Il faut qu'il y ait la dialectique entre les deux qui permet justement d'aller au-delà et de constituer, voilà, une nouvelle réalité sociale, quoi. Hein, avec l'idée que c'est pas demain matin. Avec l'idée que c'est vraiment pas demain matin. Ça a l'air, tu vois, ça coupe complètement avec l'idée que il y a des grands soirs, des petits matins, tout ce qu'on veut. C'est avec l'idée que c'est un processus de longue durée. Le parallèle qu'il fait, c'est avec la réforme en Allemagne et le processus qui fait que la réforme, voilà, partie de tout petit groupe d'intellectuels, va être prise en main par le peuple allemand et va donner la grande philosophie allemande qui elle-même va donner le matérialisme. Non, pas le matérialisme, la philosophie de la praxis. Hein, voilà. Et c'est un processus. Alors, oula, oui, il voit pas ça en 15 jours. Quoi. Hein, il voit pas ça en 15 jours. On comprend pourquoi il dit voilà, bon, bah, guerre de position, ça veut dire ça. Et avec cette idée que en politique, la guerre de position, c'est l'hégémonie, quoi.
Alors, on a...
juste une bricole, non, mais c'est qu'effectivement, il n'écrit que. Après, il arrête d'écrire parce qu'il ne peut plus écrire physiquement, il ne peut plus. Les cahiers, en tout cas, en 35. Donc, il est exactement dans toute la période où c'est la ligne classe contre classe, social-fascisme, mais en avant, la révolution, c'est demain matin. Quoi.
Et il est en double... Bon, ça, on a pas le temps de l'évoquer, mais il est en double guerre de position aussi, parce que son maintien en prison arrange beaucoup de gens, y compris dans son propre camp. Mais bon, ça, c'est dans le livre. On arrive lentement mais sûrement à la fin de notre entretien. J'avais deux petites questions un peu plus personnelles et un peu plus provocantes. Je me posais la question de cette postérité de Gramsci, quand même, qui est importante par rapport à d'autres auteurs et autrices qui sont quand même tombés un peu plus en désuétude. Est-ce qu'elle n'est pas un peu liée à l'image valorisante qui donne justement aux intellectuels dans toute cette politisation, et donc les intellectuels lui rendent bien par la suite?
Non, mais il dit très clairement qu'il ne s'intéresse pas exclusivement, et loin de là, même s'il s'intéresse aussi aux grands intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui jouent un rôle de cohésion et de conscientisation sont des intellectuels. Et donc, ça veut dire que il n'y a pas seulement les profs d'université, quoi, hein, loin de là, ou les grands propriétaires fonciers qui, par ailleurs, peuvent faire de la philosophie dans leur palais à Naples parce que il y a les troupeaux de brebis dans les Abruzzes, hein, pour ne pas citer Benedetto Croce. Mais c'est tous les gens qu'on forme. C'est la permanence de ce travail des écoles de partis en prison, où parfois ça se passe difficilement, parce que voilà, ça se passe difficilement quand il essaye d'expliquer que bon, la ligne de la... Hein, et il arrive les camarades qui viennent de se faire arrêter et qui disent ouais, là, on va faire la révolution, etc. Et il leur dit, vous êtes combien, il y a combien de membres du parti à Turin en ce moment? 100. Et c'est avec 100 que vous allez faire la révolution. Donc il y a ce travail permanent qu'il fait quand il est avant, quand il est en liberté, avec ses journaux, qu'il fait après, qu'il fait quand il est en confine dans l'île d'Oust. Ils font une première chose qu'ils font, c'est de faire une école. Ils continuent à essayer de faire des écoles de parti. En prison, il le fait, etc. Voilà. Et donc c'est ça les intellectuels auxquels ils pensent.
Hein, tout particulièrement les intellectuels organiques. C'est pas les intellectuels organiques, c'est pas les profs ou les intellectuels qui sont sympathisants ou qui ont leur carte au parti. C'est les intellectuels organiques, c'est censé devenir une masse d'intellectuels organiques, précisément parce qu'ils sont organiques au sens où ils proviennent de la masse qu'ils représentent. Ouais. Ça, c'est un travail perpétuel.
Oui, par ça. Peut-être que malgré tout, c'est valorisant de se dire que bon, on va pouvoir faire la révolution et donc on va écrire des textes. Je veux dire, il y a qu'à voir ce que les gens de droite, voire d'extrême droite, parce que malgré tout, si on reconstitue le processus, on voit bien que c'est très lié aux post-fascistes, qui étaient, avant d'être des post-fascistes italiens, étaient les vrais fascistes italiens, qui étaient à la République sociale de Mussolini. Enfin, bref. Le prédécesseur de Giorgia Meloni, qui s'appelait Giorgio Almirante, dont elle fait les affiches pour dire « Après Giorgio, il y a Giorgia », c'était le secrétaire de rédaction d'un journal fasciste de l'époque fasciste, s'appelait « La défense de la race », qui a été ensuite un militant actif de la... Voilà. Et c'est ça, hein, la captation de Gramsci, y compris le nom de l'Ordine Nuovo. Parce que l'Ordine Nuovo était devenu dans les années, à la fin des années 50, et jusqu'au, pendant une longue période, un groupuscule néo-fasciste, mais qui a été le noyau de la stratégie de la tension en Italie. Donc voilà. Hein, bon. Alors, tout ça pour dire que, en effet, il y a un côté purement habillage hein, dans cette utilisation. En revanche, il y a des pays, par exemple en Amérique latine, il y a effectivement toute la gauche d'Amérique latine s'est servie de concepts gramsciens en essayant de penser qu'est-ce que ça peut être pour nous, qu'est-ce que c'est la révolution passive, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, qu'est-ce que c'est le prince moderne là-dedans, etc. Ils s'en sont vraiment servis.
C'est bien, j'ai bien fait de vous taquiner pour obtenir une réponse précise et nette. Une dernière question, ce sera la conclusion. Vous avez parlé du sens et de ce que peuvent donner les intellectuels, mais qui manquent parfois de sensibilité. Quand vous voyagez tous les deux, depuis des dizaines d'années avec Gramsci, et vous le montrez bien dans la biographie, c'est aussi sa vie d'homme avec sa maladie, etc. Est-ce que, c'est encore plus dur, c'est plus deux minutes, c'est en un mot. Qu'est-ce qu'il vous apprend? Il vous apprend le courage? Quel mot résumerait ce qu'il vous a apporté dans toutes ces années en tant que compagnon de route?
La force de la volonté, moi je dirais.
Ça. La volonté.
Ok, je prends ça. Je pense que pour les auditeurs et les auditrices, vous vous rendez compte qu'il y a encore beaucoup plus de choses à apprendre dans ce beau livre de 550 pages, des concepts gramsciens et puis de sa vie aussi. Donc je vous remercie beaucoup Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini pour ce bel entretien et bonne continuation avec Gramsci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.